Vous écoutez KTO Radio, il est 2h.
Vous retrouvez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, émission musicale intitulée L'orgue, instrument sacré. Régis Burnet recevait François Polgar, chef de chœur, et Éric Lebrun, organiste et compositeur.
Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous nous intéressons à un instrument qui est sans doute le plus emblématique de nos églises, l'orgue. Sa puissance, sa majesté, sa capacité à porter la prière de toute une assemblée en font un pilier de la liturgie chrétienne. Et pourtant, l'histoire de l'orgue est surprenante. Le saviez-vous, avant de devenir cet instrument sacré, il fut un instrument de plein air, puis de faste dans les cours princières. Alors, comment a-t-il fait son entrée dans l'église? Et surtout, comment est-il passé du statut d'accompagnateur à celui de véritable prédicateur? Car on le sait bien, l'orgue ne fait pas que jouer de la musique. Il interprète, il commente, il annonce la parole de Dieu. Alors comment l'orgue parle-t-il? Que nous dit-il du rapport entre l'art, la culture et la foi? Pour nous guider dans cette exploration sonore et spirituelle, deux invités, François Polgar. Bonsoir.
Bonjour.
François, on vous voit beaucoup et on vous entend beaucoup parce que vous êtes chef de chœur et donc souvent vous êtes au devant.
Aux manettes.
Aux manettes. Mais vous êtes aussi la voix, hein, le consultant musique de KTO. Et puis, Éric Lebrun, alors vous, on ne vous voit pas, parce que vous êtes souvent derrière, justement, dans l'orgue.
Oui.
Vous êtes organiste, vous êtes compositeur et pédagogue, et je le dis tout de suite, vous avez aussi fait une des conférences de carême de Notre-Dame cette année, et c'est pour ça qu'on vous a vu, pour une fois. Alors, peut-être pour commencer, justement, j'ai commencé avec le teaser, de quand date l'orgue? Est-ce qu'on sait qui a construit le premier orgue?
Qui a construit, je pense qu'on ne sait pas. On sait qu'en tout cas, ça, il existait déjà dans l'Antiquité, ça c'est certain, et qu'il accompagnait entre autres les Jeux du Cirque à Rome, puisqu'il existait à l'époque un orgue qu'on appelle l'orgue hydraulique, qui était l'hydraule, donc il marchait pas à l'eau, c'est le système de soufflet qui fonctionnait avec l'eau, et donc il faisait même un bruit épouvantable, paraît-il, et ça faisait très peur aux spectateurs.
Et au lion, j'espère.
Ouais, on dit que Sainte Cécile, aurait été au supplice au son de l'orgue. Et non pas qu'elle jouait de l'orgue, parce que vous savez, Sainte Cécile est donc la patronne des musiciennes.
Mais souvent, on
est toujours représentée avec un orgue.
Orgue, oui.
Mais en fait, c'est un faux sens latin du XVe siècle, où on a dit qu'elle allait au supplice en chantant comme un orgue, mais en fait, en réalité, elle allait au supplice assourdie par l'orgue qui était dans le cirque.
Alors, l'orgue, avant d'être un instrument, j'ai commencé à le dire, avant d'être un instrument de liturgique, très sérieux, avec des gens très sérieux derrière, c'était un instrument plutôt de divertissement, et pas du tout un instrument sacré, en fait.
Alors, on a un très bel exemple iconographique, c'est la tapisserie des Dames à la licorne. Pour représenter Louis, on voit une dame très élégante qui joue de l'orgue dans une prairie. On trouve des orgues, effectivement, dans l'Antiquité, dans les cirques romains, dans les demeures des seigneurs. Mais petit à petit, donc, il va conquérir le monde entier. On va le trouver en Arabie. Il va être présenté très souvent, notamment à Pépin, comme un instrument précieux. Et puis, il va faire son apparition dans les cours princières. Et effectivement, on va s'en servir pour la danse. Petit à petit, l'orgue va s'introduire, depuis la fin du Xe siècle, dans les grands édifices religieux. Par exemple, en Angleterre, on va le trouver dans les années 950. Puis petit à petit, en France, à Notre-Dame, 14e siècle, par exemple. Alors souvent, l'orgue était un petit instrument qui se trouvait accroché, on dit, en nid d'hirondelle, sur le mur de côté. Par exemple, à la cathédrale de Chartres, on a ce grand buffet médiéval. De la même manière, on a un exemple comme ça à la cathédrale de Strasbourg, qui est absolument magnifique. magnifique. Et ça, ce sont les premiers moments en fait où l'orgue va s'introduire dans les grands édifices suite aux vastes réformes des édifices en Occident.
Alors, vous nous avez amené votre playlist, hein, et donc vous nous proposez un premier extrait d'Antonio Valente. Dites-nous, ça s'appelle Ballo dell'Intorcia. Alors peut-être on va entendre et puis vous allez nous commenter. Ballo dell'Intorcia d'Antonio Valente. Donc là, on sent que c'est pas très liturgique.
Non, alors...
Il faut imaginer un évêque qui sautille.
Oui, oui, effectivement, on est dans la danse. Et d'ailleurs, on a de nombreuses pièces de cette époque profanes pour l'orgue. Je pense, par exemple, le ballet du Grand-Duc, qui est attribué à Swilling, mais qui est en fait de Scheidt. Enfin, ça, c'est un point de détail. Et effectivement, on a de nombreuses pièces jusque assez tardivement qui sont exclusivement profanes. Et cet exemple est intéressant. Il est enregistré sur un instrument qui est l'orgue de Louis Juson, dans le sud de la France, dans les Pyrénées. Et voilà, qui est un instrument très, très ancien, qui permet de rendre justice par ses timbres à cette musique très colorée. Voilà. Et donc là, on est en présence de cette musique qui, petit à petit, va conquérir le champ de la musique sacrée. On va en reparler un petit peu plus tard.
Ben juste, on va même avoir un deuxième extrait. Alors lui, il est intéressant parce que c'est Frescobaldi. Donc c'est l'organiste le plus connu de l'époque. Et c'est l'organiste de la cour pontificale, je crois. Hein,
oui, tout à fait. Alors Frescobaldi est un compositeur tellement prestigieux que le jeune Bach l'a recopié de sa main lorsqu'il était élevé par son frère aîné. Frescobaldi était effectivement l'organiste de Saint-Pierre de Rome. Il a composé de la musique vocale, mais surtout des recueils de musique d'orgue. Alors là, ce qui est très très fascinant dans l'extrait que nous allons entendre, il est extrait des Fiori Musicali, c'est un recueil du début du XVIIe siècle, qui comporte trois messes pour orgue et deux pièces d'inspiration profane, dont la Bergamasque, mais qui font partie de ce recueil de musique religieuse et qui était peut-être joué à la communion. Et donc on est étonné de voir que à Saint-Pierre de Rome, dans le Saint des Saints, on utilise encore des thèmes de musique profane pour la musique sacrée. Alors ça va être une constante, hein, par ailleurs. Donc là, en l'occurrence, la Bergamasque, donc cette mélodie très populaire qui vient de Bergame, et que donc Frescobaldi va utiliser de différentes manières. Et ça illustre une deuxième chose, c'est qu'au départ, l'orgue à l'église va imiter la voix. En l'occurrence, cette musique pourrait parfaitement être chantée par un chœur à quatre voix et être un motet sacré ou une chanson profane. Mais la frontière est très floue à cette époque, entre les deux genres.
On écoute la Bergamasque. François Paulgar, quand vous entendez ça, c'est profane ou c'est sacré?
Moi, j'entends déjà ça de manière très vocale, en fait. Hein, c'est-à-dire que, pour moi, il pourrait très bien y avoir des paroles là-dessus. C'est une musique... mais maintenant, c'est vrai, comme disait Eric, à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de frontières entre la musique vocale et la musique instrumentale, à tel point que les chœurs, souvent, étaient très... très pauvre en nombre de chanteurs, et souvent les instruments de musique remplaçaient les voix qui manquaient. Si vous aviez pas suffisamment de basses, on faisait jouer un serpent, n'est-ce pas? Et l'orgue, à mon avis, petit à petit, il a dû aussi servir d'ersatz à des à des chœurs qui n'étaient pas suffisamment nombreux. Oui.
Est-ce que justement ce mélange entre sacré et profane est continue? Est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, quand vous faites aussi de l'improvisation, j'imagine, est-ce que vous pouvez faire une improvisation sur Frère Jacques ou sur où vous êtes obligé de prendre quelque chose, une mélodie jugée sacrée? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une mélodie sacrée?
Il faut que la mélodie ait du sens pour les fidèles. C'est-à-dire que si je vais évoquer la fête de la Pentecôte, je ne vais pas utiliser le thème de Frère Jacques.
Non.
Je vais utiliser le thème du Veni Creator, par exemple, oui. Qui est une des mélodies les plus célèbres pour cette fête. Après, c'est vrai qu'en tant qu'instrument de concert, l'orgue peut s'emparer, et l'organiste, de n'importe quel thème profane. L'exemple de la Bergamasque est quand même assez troublant, parce qu'on se demande bien ce que ça venait faire à Saint-Pierre de Rome. Alors, il y a certainement un sens caché qui nous échappe aujourd'hui.
Oui, c'est bien possible.
Ce thème de la Bergamasque, d'ailleurs, il a circulé assez loin, puisque à la fin des variations Goldberg, Bach le réintroduit dans une synthèse sonore assez étonnante, avec d'autres thèmes, et puis avec sa basse des Goldberg. On a l'impression qu'il veut se rattacher à une très ancienne tradition. Pour revenir à ce qui nous occupait, je pense que réellement, il faut que le motif qu'on utilise pendant un office soit en résonance avec ce que j'appelle l'inconscient collectif des fidèles chrétiens. C'est-à-dire que même s'ils ne fréquentent plus certaines mélodies grégoriennes, par exemple, elles sont dans l'inconscient malgré tout, je reste convaincu de ça. Et puis j'y reviendrai un petit peu plus tard, je pense que la musique, c'est un petit peu comme la parole de Dieu. Il y a quelquefois des choses qui nous échappent, mais qu'il est bon d'entendre parce qu'elles nous nourrissent. Et j'ai pas peur de jouer de la musique écrite systématiquement le dimanche, quelquefois des chorales de Bach, par exemple. Et je sais très bien quel est le message qui est derrière. Je sais très bien aussi qu'il peut pas être compris de la première fois, de la première écoute. Et je sais aussi que c'est mon devoir de transmettre ce message spirituel.
Ouais. Ouais, pour revenir un petit peu une seconde là, sur le côté profane de la musique sacrée, il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque, en plein XVIe siècle, les compositeurs utilisaient des thèmes profanes et même souvent des thèmes, on va dire, un peu osés. Oui. À tel point que le Vatican a demandé, par exemple, à Palestrina de faire une réforme, parce que justement, il y avait trop de... Enfin, l'exemple le plus connu, c'est les messes de l'homme armé.
Oui.
Et l'homme armé, c'était une chanson paillarde de soldats. Hein. Et vous avez des très grands compositeurs, Josquin des Prés, Orlan de la Susse, qui ont écrit des messes sur ces thèmes-là.
Mais justement, c'est quoi? C'est le côté inconvenant, c'est-à-dire que les gens entendent,
oui,
entendent le son et, oui, et se chantent, oui, la chanson paillarde dans leur tête.
Je pense que c'est ça qui les a gênés. Et ça rejoint ce que disait Eric là, il y a deux minutes, c'est que effectivement, il faut viser l'inconscient collectif.
C'est ça.
Et ou pas inconscient, parce que si on pense à la musique protestante, luthérienne, les thèmes en fait de chorale sont des thèmes qui étaient connus de toutes les assemblées. Mm-hmm. Et quand l'organiste improvisait sur Christlag, par exemple, immédiatement ça évoquait pour le fidèle Pâques, etc. Voilà.
C'est intéressant parce qu'on voit bien que là, le discours a un peu changé. Je vais vous lancer dans vos vieux démons, François. parce qu'il y a eu un moment après le renouveau liturgique de Vatican II où on voulait de la musique un peu facile, un peu... Alors, je dis pas qu'il fallait prendre du Beyoncé à l'orgue, mais vous dites qu'il faut quelque chose d'un peu plus solennel, d'un peu plus religieux, non pas dans le sens de la religiosité profonde, mais de l'inconscient religieux des gens.
Je pense que l'instrument, l'orgue, est un patrimoine.
C'est ça.
Mais que le répertoire de l'orgue est un patrimoine qui est rendu vivant par le jeu d'interprète. Au fond, la musique, c'est pas comme la peinture ou la sculpture, il faut que ça passe par une personne vivante.
C'est ça.
Et donc, je trouve que notre devoir à nous, organistes ou chefs de chœur d'ailleurs, c'est la même chose, c'est de rendre ce patrimoine vivant. Et que il y a dans cette musique sacrée, alors la musique sacrée, ça peut pas dire grand-chose. On va dire la musique qui a été écrite pour la liturgie. Dans le cas de Bach, par exemple, les chorales, pour orgue, ou les cantates. Il y a un message qui est derrière cette musique et qu'il est très important de l'interpréter régulièrement, je veux dire, de manière à ce qu'elle enrichisse la pensée, la prière des fidèles. D'ailleurs, j'observe que beaucoup de personnes qui ne fréquentent pas l'Église vont écouter volontiers de la musique liturgique, oui, alors on va dire la musique sacrée, en concert.
Oui.
Par exemple, à la Philharmonie, on va écouter une Passion de Bach.
C'est-à-dire que la musique, oui. C'est-à-dire que la musique liturgique, elle devient sacrée.
Oui,
c'est ça. Si elle est en concert. Mais elle est liturgique si elle est en...
Voilà.
Si elle appartient à la liturgie.
Mais sa vocation est liturgique.
Absolument.
Et je me rappelle qu'un de mes curés, il y a maintenant une vingtaine d'années, dans ma paroisse, m'avait demandé à ce que ce qu'on donnait en concert avec le chœur que je dirigeais à l'époque soit donné à la messe. En l'occurrence, il parlait de la messe de minuit de Charpentier. Bon, on l'a chanté pendant la messe de minuit. Puis ensuite, on a chanté la messe Connubilo de Durufé, etc. Parce que c'est la place, en fait, pendant la liturgie. Alors, ça ne peut pas forcément être tous les dimanches, mais ça peut être de temps en temps. Voilà. Donc, moi, je trouve que la musique d'orgue, elle a sa place très facilement dans les offices de la préconcile, parce qu'on peut jouer avant l'office, on peut jouer pendant l'offertoire, on peut jouer pendant la communion ou l'action de grâce, et on joue la sortie. Donc ça fait quand même quatre moments où on peut placer de la musique qui a du sens et qui est du patrimoine vivant. Je veux dire qu'une pièce de Frescobaldi, une pièce de Bach, une pièce de Messiaen, une pièce de Jean-Louis Florenz, par exemple plus récemment, eh bien c'est de la musique qu'on peut jouer pendant l'action liturgique, et elle a toute sa résonance à ce moment-là.
Même question pour vous, François, pas de chansonnette dans votre cœur?
Non, pas de chansonnette. Non, je pense que c'est pas la peine, il y a suffisamment...
Il y a d'autres endroits pour entendre la chansonnette.
Voilà, et il y a suffisamment de très bonne musique, liturgique ou sacrée, sans être obligé de faire du populisme, on va dire.
Alors... On avance dans le temps et vous nous avez, dans votre playlist, Eric Lebrun, vous nous avez proposé François Couperin, tierce entaille du Gloria de la messe des paroisses. Là, on est dans de la musique solennelle.
Oui, alors, François Couperin est très jeune, il a un peu plus de 20 ans, 21 ans et demi exactement, lorsqu'il publie cette musique. Il est l'organiste de Saint-Gervais à Paris. Et à l'époque, et c'était le cas depuis déjà très longtemps, puisqu'on parlait de Frescobaldi, c'était comme ça à Rome, on alternait le plein chant. Le plein chant qui, il faut le dire, n'a pas toujours été apprécié. Donc en fait, on cherchait à le colorer en alternant un verset sur deux avec de la musique d'orgue qui, pour le coup, était très vivante, dansante et qui faisait appel à toutes les ressources sonores des grands instruments, que ce soit en Espagne, en Italie, en France. Et donc ici, pour la messe des paroisses, Couperin va alterner des versets pour le Gloria, des versets sur la messe de dite Conti Potens, qui était la messe des grandes solennités. Et là, nous arrivons au verset « Quitolis peccata mundi »,« Toi qui portes les péchés du monde ». Et cette musique très éloquente va faire chanter la main gauche avec un jeu qu'on appelle le jeu de tierces et va nous faire ressentir vraiment intimement cette sorte d'image du Christ qui porte lui-même sa croix et qui porte en même temps les péchés du monde. Je trouve que c'est une musique qui est très parlante.
On écoute.
Oui, là c'est très intéressant même de point de vue musicologique, puisque la tierce en taille, en fait, c'est le ténor.
C'est le ténor.
Et donc le ténor, en fait, le mot ténor vient de teneur. Teneur, c'est-à-dire c'est celui qui tient en fait la mélodie. Et Couperin, lui, en fait, il connaît très 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 bien son histoire de la musique, évidemment. Et sa mélodie, il la met au ténor, c'est-à-dire que c'est historiquement, la partie qui doit chanter, le ténor.
Il improvise quand il fait ça parce qu'on a toujours cette image de Bach qui improvise, puis qui après réécrit ce qu'il a. Il improvise ou c'est déjà écrit?
Non, c'est vraiment de la musique écrite.
Ouais.
Mais je reste convaincu qu'à cette époque, que ce soit Bach lui-même, Buxtehude, ou les Français, écrivent des livres d'orgue, écrivent des chorales pour orgue, écrivent des préludes pour servir d'exemple. Parce qu'on ne peut pas imaginer une seconde que Bach rabâchait toujours les mêmes œuvres le dimanche. Alors, Bach qui n'a été organiste à l'église que 14 ans.
On va revenir sur Bach.
Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les organistes français qui l'ont fait quasiment à vie, à part Couperin, moins longtemps, mais quand même. Je pense qu'ils improvisaient beaucoup de musique et que ce qu'ils nous laissent comme livre d'orgue, ce sont des exemples. C'est ce qu'on peut faire de mieux.
Oui, moi je pense que ce n'est pas des improvisations, en fait.
Non.
En revanche, les litanies d'Anna, par exemple, c'est sûrement une improvisation.
Oui, hein, oui, oui.
Qu'il a réécrite par la suite. Oui. Mais chez Bach, je pense que tout est écrit oui. dans sa tête.
C'est ça, c'est des modèles. Ouais.
Alors, c'est écrit sans doute sans brouillon.
Oui.
C'est ça
mais, sûrement.
Voilà. Mais c'est écrit, c'est pensé, cette musique qui est pensée. Mmh. Avec son architecture, avec ses non-dits, en fait, aussi. C'est très important. Ouais.
Ouais. Alors, vous avez parlé avec Couperin d'une musique très évocatrice, enfin, etc. Oui. Avec Louis Marchand, on est dans la splendeur, dans la majesté.
Alors, dans l'exemple que j'ai choisi, oui. Alors, il faut dire une chose, c'est que la musique française de cette époque, c'est une musique de l'éloquence. C'est-à-dire, on est comme dans un sermon de Bossuet. C'est pas de la musique décorative seulement. Évidemment, ça fait référence à la danse, mais le récit, ce qu'on appelle le récit français, ça suit vraiment la diction des mots, contrairement au récitatif italien qui peut être beaucoup plus bousculé. Et donc, on est dans une musique qui est vraiment comme de la parole. Au fond, lorsque Couperin a écrit ce « Cutelis peccata mundi », ce verset de la messe des paroisses, c'est comme si, avec ses mots à lui, il commentait la parole de Dieu. Alors, Marchand, c'est un merveilleux musicien. Et ce que j'ai choisi, c'est un extrait très différent. Là, c'est en fait ce qu'on appelle un grand jeu. Donc, c'est ce qui va conclure généralement, par exemple, la Magnificat ou le Gloria, etc. Et c'est aussi ce qu'on jouait à l'Offertoire. À l'époque, l'Offertoire a été extrêmement brillant. Et donc, là, c'est probablement ce qu'on pouvait entendre de plus fort, comme disait mon maître Michel Chapuis, en dehors du bruit du canon. À cette époque-là.
Donc,
il fallait saisir vraiment l'imagination du fidèle. Et donc, ce qu'on appelait le grand jeu, c'est extrêmement saisissant. Et la musique qui va avec aussi.
Ouais, je sais pas pourquoi aujourd'hui les offertoires sont considérés comme des moments où il faut jouer doucement, de manière doucereuse, etc. Ouais. Alors que
moi c'est pas du tout mon cas.
Hein, bah oui, mais ça, je n'en doute pas.
Très contrasté en fonction des temps liturgiques.
Bah, bien sûr. Oui.
Par exemple, pour le dimanche de la Pentecôte, là,
voilà, faut y aller,
que ce soit éclatant. Le jour de Pâques aussi. Mais c'est vrai que souvent l'offertoire c'est considéré comme un moment où il faut pas jouer trop fort. Du coup, la musique sert pas à grand chose.
Oui, ça endort un peu les fidèles.
Et ben voilà, de la musique qui n'endort pas, Louis Marchand. C'est comme le bruit du canon, mais en plus mélodieux. Les téléspectateurs vous ont entendu parler parce que vous avez commenté l'orgue sur lequel vous jouiez, qui est l'orgue de Villeneuve-sur-Yonne. Également, c'était l'orgue que vous jouiez pour Couperin.
Oui.
Voilà. C'est en Bourgogne.
Exactement. Ma belle-sœur Sylvie a été organiste sur cet instrument pendant une trentaine d'années.
Ouais.
Donc j'y suis attaché aussi pour des raisons familiales.
Mmh. Alors Bach. Qu'est-ce que vous dites de Bach, vous, quand vous avez à présenter Bach?
Reste bouche bée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bach, c'est c'est le quatrième évangéliste. C'est ça, le quatrième évangéliste.
Cinq. Hein,
le cinquième évangéliste. Oui, le cinquième. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait ça? Je ne sais plus.
Je ne sais plus. Mais Suran disait que quelqu'un a rendu un grand service à Dieu, c'est Bach.
Oui, c'est ça. Oui. Même on se demande pourquoi il n'était pas pasteur. Hein, en fait, parce que c'est toute sa musique, en fait. Et d'ailleurs, il signe Soli Deo Gloria, toutes ses œuvres. Hein. Donc, il ne vit et il n'écrit que pour Dieu, en fait. Hein,
Est-ce que c'est vrai la légende qui dit, enfin la légende ou c'est l'idée un peu rapide que les gens spécialistes de, enfin pas du tout spécialistes de la musique disent que en fait c'est un commentaire, c'est presque une prédication. Est-ce que c'est cette impression que vous avez?
Alors, d'abord, il faut rappeler que la société dans laquelle Bach vivait était protestante. Ouais. C'est-à-dire que dans sa famille, il y avait des musiciens qui jouaient des instruments de cuivre. Dans les hôtels de ville, au sommet, dans les tours des hôtels de ville, pour que les gens entendent des mélodies de chorale toutes les heures et prient, qu'ils soient au chant, à l'atelier, etc. Donc ça fait partie quand même d'un... Tout à l'heure, on disait que on avait ces mélodies de chorale, c'est François qui le disait dans la tête, mais c'est vrai, les gens connaissaient absolument par cœur, parce qu'on chantait pas la musique religieuse seulement à l'église. On la chantait chez soi ou dans la rue. Donc, c'est vrai que Bach est un prédicateur, mais c'est, j'allais dire, presque naturel, parce que c'était la fonction de la musique. Mmh. Et chez lui, ce qui est très intéressant par rapport à d'autres musiciens qui sont aussi des prédicateurs, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau, comme chez Telemann, qui a composé, par exemple, une quarantaine de passions. On se dit, mais quand même, c'est plusieurs 2000 cantates pour l'Église. Mais j'allais dire qu'il y a un premier niveau de lecture qui est magnifique, alors que chez Bach, en fait, quand on regarde derrière, il y a un autre niveau de lecture, puis encore un autre, et puis on découvre toujours des choses. Vous voyez, moi, ça fait plus de 45 ans, allez, que je joue de l'orgue, et encore maintenant, des partitions que j'ai travaillées quand j'avais 12 ans, je découvre encore des choses. Mmh. Des partitions de Bach, je veux dire. Parce que, voilà, il y a toujours un arrière-plan, et que cet homme était tellement inspiré par la parole de Dieu... qu'il en a découvert toujours. Par exemple, lorsqu'il évoque la nativité, eh bien, il y a toujours l'image de la croix derrière, de la passion à venir plus tard. C'est pas juste la nativité, mais c'est quand même la nativité, voyez. Et puis, on pourrait donner de très nombreux exemples.
Oui, et puis rien que par le système de la parodie, c'est-à-dire qu'il réutilise, c'est tout à fait extraordinaire, il réutilise certains passages de ses œuvres dans des nouvelles œuvres. Mm-hmm. Alors on pourrait se dire, franchement, il pourrait se donner un peu plus de mal. Hein. Oui. Et en fait, on s'aperçoit à chaque fois que quand il utilise, il réutilise un thème qu'il avait dans une cantate précédente, dans une autre cantate, il y a un rapport dans le texte. Oui. C'est-à-dire que il réutilise pas n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire que ça donne un sens supplémentaire au texte. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un texte. Donc ce texte est important parce que la musique de Bach est rhétorique, hein. Est complètement rhétorique, hein. Mais pour dire encore quelque chose de plus, sans le dire, il y a la référence à un thème qu'il a utilisé avant et qui parle d'autre chose, mais d'autre chose qui a un rapport avec.
Alors, la musique de Bach est rhétorique.
Alors, peut-être que les... juste ajouter une chose.
C'est tellement en train vrai. De faire une transition.
Pardon. Mais c'est tellement vrai que quand il y a eu la querelle à partir de 1735, où on disait que la musique de Bach était trop compliquée, il a fait répondre par un universitaire de Leipzig que Bach était le plus grand rhéteur de sa génération et pas compositeur. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Pardon.
Mais non, je peux continuer à faire ma transition parce que tous les téléspectateurs ne voient pas de quoi il s'agit quand vous dites c'est rhétorique. Alors on va prendre, vous nous avez suggéré trois extraits qui vont nous montrer comment, en fait, c'est une musique justement qui parle. Alors vous avez commencé, on va commencer par Noël. Donc c'est le choral von Himmel kam, donc il est venu depuis les cieux. Vous jouez, je le dis comme ça, voilà, à l'orgue de Saint-Cyprien en Périgord. Alors pourquoi c'est rhétorique là ? Parce que ça descend ?
Alors.
Et il descend du ciel ?
Voilà. Alors nous sommes donc au début du XVIIIe siècle. Bach a à peu près le même âge que Couperin quand il écrit son livre d'orgue. Il a un peu plus de 20 ans. Donc ça s'appelle Petit livre d'orgue parce que c'est un petit cahier comme ça. Mm-hmm. Et il commente en fait son projet parce qu'il n'est pas arrivé au bout. Mais il commente quand même pour 45 chorales les mélodies que tout le monde connaît à cette époque, qu'on chante à l'église, qu'on chante au chant, à l'atelier. Et en fait, il va faire un petit commentaire musical de la durée même du chant liturgique, qui ne dépasse pas la durée, qui permet d'avoir un éclairage, et même plusieurs éclairages en même temps. Alors en l'occurrence, la mélodie donc plane au-dessus, on l'entend un petit peu, mais surtout on entend toutes ces gammes qui montent, qui descendent au pédalier, aux mains, et en fait, Le texte dit que du ciel est descendue la cohorte des anges. Et donc, on a l'impression, comme dans un tableau où on voit des anges qui forment un pont entre le ciel et la terre, d'avoir tous ces anges, et puis en même temps, un arrière-plan avec d'autres anges moins nombreux et qui évoluent plus lentement. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc là, en fait, c'est quelque chose de très visuel. Il nous montre, justement, qu'au moment de Noël, il y a quelque chose qui se passe dans cette espèce d'union entre le ciel et la terre. Vous voyez, avec des moyens très simples. Et ce choral dont on a entendu un extrait dure une minute.
Ça
frappe suffisamment l'imagination des auditeurs pour se dire « Ah, mais cette mélodie, on va donc chanter ça. » Et il a l'impression, en fait, parce que nous, on est gavés de musique, on est la radio, Internet, etc. Mais à l'époque, la musique, on entendait quasiment seulement à l'église ou du sommet de la tour. Ouais. Ou alors, il fallait aller au bal, éventuellement, quand il y en avait un. Mais pour les auditeurs de cette époque, c'est magique. C'est comme quand ils voyaient un vitrail en plein soleil. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait, tout à fait. Pour vous, vous voyez, vous visualisez ?
Ah oui,
quand vous entendez de la musique, vous visualisez ?
C'est extraordinaire. Alors, c'est amusant parce que, comme actuellement, je suis tout à fait dans... immergé dans le Messie de Handel, ça me rappelle aussi le chœur Glory to God, qui raconte la même histoire, c'est-à-dire les anges qui viennent annoncer la naissance de Jésus, gloire à Dieu au plus haut des cieux, d'accord. Et Handel, il a fait un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez, ça commence très doucement, parce qu'il veut nous faire entendre les anges qui arrivent, ils sont pas là, donc ils arrivent. Vous avez il a écrit que les trompettes doivent jouer de loin. Donc, les trompettes jouent en coulisses, d'abord, et puis ils s'approchent, et puis ils vont jouer très fort au moment où on va chanter le plus fort possible « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et les instruments, c'est tout à fait comme dit Eric, c'est des cohortes d'anges, en fait, qui s'en vont. On entend les anges qui s'en vont et qui disparaissent, petit à petit. Une espèce de diminuendo incroyable.
Alors là, maintenant, on va entendre la mort, si on peut dire, ou le mystère pascal. Donc, c'est Christus lac in todes banden. Donc, le Christ gisait dans les
liens.
Liens de la mort.
Ouais.
Où les liens là.
Alors, vous avez la mélodie qui plane au-dessus.
Oui.
Alors, donc, il s'agit d'un choral de Pâques. Christ gisait dans la liane de la mort. On parle de la résurrection et ça se termine par Alléluia. Ouais. La mélodie, elle est très ancienne puisqu'en fait, c'est la 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 la.
Christ lag in todes. Oui, c'est.
Voilà, c'est lui qui met Pascal.
Oui, met Pascal in laudes. La séquence du jour de Pâques.
Exactement.
Et oui, c'est ça. Et le comment dirais-je, c'est la spiritualité aussi mais qui est aussi la nôtre, hein. Oui. C'est-à-dire que Christ est ressuscité, mais il y a eu la passion et on ne peut pas effacer la passion du jour au lendemain. Oui. C'est pas d'un seul coup Christ est mort, le lendemain il est ressuscité, alléluia, etc., d'accord, mais la passion, elle reste en nous comme quelque chose de très très important et essentiel. Mmh. Et Christ là, Christ gisait dans les liens de la mort. Oui. Et pourtant, c'est Pâques.
Mmh. Et en l'occurrence,
donc, ce qu'on entend en haut, c'est la mélodie de la résurrection.
Oui.
Et
alors, exactement.
Voilà.
Le geste est parfait.
Oui.
Parce que il y a deux choses visuellement. Des sortes de bandelettes comme on représentait quelquefois à l'époque.
Oui.
On représentait le Christ enveloppé de bandelettes comme une momie.
Oui.
Et puis en même temps, les liens de la mort. Oui. Quelque chose qui s'arrête jamais finalement.
Oui.
Quelque chose qui nous emprisonne. Voilà. Mais ce motif parcourt la polyphonie, les mains, les pieds, et au-dessus, on a la mélodie du choral. Donc en fait, là, on est dans quelque chose qui nous évoque effectivement la mort, la prison du tombeau, et puis à la fin, la résurrection. Donc là aussi, prédication, très simple, une minute, on sait de quoi il s'agit. Par ailleurs, Bach va écrire une magnifique cantate, probablement de jeunesse.
La cantate 4.
La cantate 4, sur le même thème, Christ lag.
Et puis, alors là, c'est encore pire, si j'ose dire, le péché. Et donc, c'est le choral Durch Adams Fall. Alors, peut-être présentez-nous ce qu'on va entendre.
Ou alors, ici, il s'agit de l'évocation de la faute d'Adam. Et Bach nous donne plusieurs angles d'approche. La mélodie, qui curieusement d'ailleurs ressemble à celle du Notre Père en Allemagne à cette époque, c'est presque la même mélodie. En dessous, deux éléments. un pervers. On ne sait pas très bien où est-ce qu'on évolue parce que c'est majeur, mineur, etc. Et puis en même temps, au pédalier, la chute. À la fois l'expression de la chute, parce que c'est un mouvement descendant, tom, ti, tom, tom. Et en même temps, c'est grave, c'est probablement, parce que Bach ne le précise pas, mais un registre assez sombre et en même temps sonore, et ça évoque aussi la bête de l'Apocalypse, mais aussi le serpent. Et donc on a ça à l'intérieur, à la fois quelque chose comme ça qui pollue un petit peu le discours, qui est un peu l'image du serpent tentateur, et puis en même temps la bête dans le grave, comme ça. Donc la chute d'Adam, finalement, quand on y regarde de plus près, c'est pas Adam qui est concerné. Hein, c'est le serpent, c'est le mal, c'est... Voilà. Et on a une image, je trouve, extrêmement parlante et tout à fait extraordinaire. Alors là, on est dans du 3 dimensions. Hein.
Alors on écoute la 3 dimensions. Marche pour nous. Je veux dire, est-ce que nous avons une idée de la mélodie, quelque chose ou de certains accords qui nous semblent mélodieux, qui ils jouent sur quoi? Pourquoi ça marche bien?
Ils jouent aussi sur l'harmonie quand même, hein, avec des accords qui sont très tendus, avec des dissonances aussi. Mm-hmm. Et donc je pense que ça aussi, ça, si on n'y connaît rien. Même si on ne connaît pas une seule note de musique, forcément ça frappe l'oreille. Hein.
C'est la dissonance.
Entre autres. Ouais. Hein. Je ne dis pas que. Hein. Parce qu'il y a la couleur des accords aussi qui est très importante de l'harmonie, si vous voulez.
Hein. Parce que moi, je n'y connais rien. Et effectivement, c'est très expressif. Enfin, oui. On a l'impression que, comme vous dites, ça ne va nulle part. Ouais, que...
Alors la registration, il faut reconnaître quand même qu'elle y fait beaucoup aussi. Là.
Oui, c'est-à-dire les couleurs qu'on peut utiliser à loisir. Alors c'est une des particularités qui fait de l'orgue un prédicateur. Mm-hmm. C'est qu'on a à sa disposition une grande variété de couleurs qu'on va utiliser en fonction de ce qu'on veut exprimer, aussi en fonction des temps liturgiques. Dans certains pays, il y avait des volets qui fermaient l'orgue pendant le carême, par exemple. Moi, j'aime bien, pendant le carême, jouer, mais vraiment le minimum, avec des choses très méditatives, pour le coup, pour que ça éclate de nouveau le jour de Pâques. Vous voyez, donc, il y a cette question des couleurs qui est très importante, qui est le propre de... C'est le seul instrument, en fait, au monde, l'orgue, qui a cette variété de couleurs. Mmh. Oui, on a des variétés de toucher au piano, bien sûr, mais pas cette variété de couleurs.
Non, non parce que le piano, ça reste le son du piano. Hein,
Oui. Ce que vous appelez les couleurs, c'est quoi? Concrètement, c'est des gros tuyaux, des petits tuyaux.
La registration, en fait. Ouais. Et les couleurs, en fait, c'est le choix des jeux, hein, tout simplement, quoi. Parce que sur l'orgue, alors, pour être simple, il y a des registres, et en fait, chaque registre correspond à un instrument différent. Mm-hmm. Et donc, vous pouvez faire de l'orchestration. Hein. D'ailleurs, sans doute, tu parleras tout à l'heure de l'orgue symphonique. Hein. L'orgue permet justement le mélange des sonorités, et ça, c'est absolument unique. Ça existe dans aucun autre instrument.
D'ailleurs, les pères de l'Église qui connaissaient l'orgue, hein, comme instrument de l'Antiquité, disaient que c'était l'instrument de la prédication parce qu'à cause du nombre de ces tuyaux, qui étaient comme un peuple rassemblé avec différentes familles. Alors, c'est vrai que ce qu'on appelle un registre, en fait, c'est tout simplement une forme de tuyau multipliée par le nombre de notes.
C'est ça.
Par exemple, si vous avez 56 notes, ça fait 56 tuyaux, du plus grand au plus petit. Et donc, à chaque fois, la forme du tuyau, la manière dont il est travaillé, etc., fait que vous avez une nouvelle sonorité et aussi une nouvelle hauteur. Hein, il y a plusieurs hauteurs. Et donc, tout ça permet de faire des mélanges. Et donc, ce que a dit très justement François, Paul Gard, c'est un mélange qu'on appelle la registration. Donc, ça, c'est la discrétion de l'organiste dans la musique de Bach, parce que Bach n'écrit quasiment rien, d'ailleurs, comme la plupart des Allemands à cette époque. Alors que les Français, eux, ils sont très friands de timbres extrêmement précis, de mélanges de sonorités. Et ils écrivent de véritables tables où ils disent on mélangera telle et telle chose. Et d'ailleurs, dans certains cas, le jeu soliste pour représenter la personne du Christ. Mm-hmm. Christ et Eleison sont général un récit avec un jeu soliste.
Alors, on va avancer, puisque l'émission aussi avance. On va arriver au 19e siècle. Qu'est-ce qui change au 19e siècle? Je pense qu'il y a d'abord peut-être de la technique qui change.
Oui, je pense que... Un des points essentiels, c'est quand même l'évolution de la facture, c'est-à-dire de la fabrication des orgues. Alors là, vraiment, évidemment, on va vers un autre monde. Hein. le monde de la symphonie, en fait. Mmh. Oui.
Qu'est-ce qui change concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'on ne faisait pas avant et qu'est-ce qu'on est capable de faire?
Éric?
Déjà, il faut dire, le monde a changé. On est après la Révolution. Mmh. Jusqu'à la Révolution, on arrive à un sommet vraiment de perfection dans la facture instrumentale. Et après la Révolution, il y a quand même une longue période de décadence où les instruments sont en mauvais état, ils sont détruits, on ne s'en sert plus ou on ne s'en sert pas bien. Et d'ailleurs, si on a créé une classe d'orgue avec, en 1818 au Conservatoire républicain, qui est en fait une classe d'improvisation, c'est parce que finalement, on improvise. On improvise, on ne joue quasiment pas de répertoire. Et donc... l'orgue va connaître une évolution postérieure. C'est-à-dire, ça va commencer en gros à la fin des années 30, 1830. Donc, à cette époque, l'orchestre symphonique est en pleine ébullition. La symphonie fantastique de Berlioz, c'est 1830. On donne les symphonies de Beethoven à cette époque à Paris. Et d'ailleurs, Wagner, qui est là, dit, c'est ce que j'ai entendu de mieux comme interprétation. C'est vous dire quand même s'il y avait une émulation. Et donc, on veut faire en sorte que l'orgue imite l'orchestre.
Ouais, c'est ça.
Donc, on va le rendre expressif en enfermant certains jeux, donc certaines rangées de tuyaux, dans une grande boîte qu'on ouvre et qu'on ferme au moyen d'une pédale avec des volets. Et puis, on multiplie le nombre de tuyaux qui évoquent des instruments de l'orchestre. Cavaillé-Cole, qui a été à la tête d'une entreprise qui a construit presque 600 instruments à travers le monde, et pas des moindres, hein,
dans le monde
de Paris, il aurait presque pu faire l'orgue du Vatican, de Rome.
Il y a des plans.
Il y en a même la maquette du musée du Vatican. Cavaillé-Cole, dans un de ses premiers devis pour Notre-Dame de Lorette, disait « Je fais des tuyaux qui ont la forme exacte des instruments de l'orchestre ». Donc c'est pas seulement le timbre, c'est même quand on regardait, Donc l'orgue va devenir en fait un orchestre bis, au point que au Trocadéro, pour l'exposition universelle de 1878, on construit un grand orgue pour le coup républicain avec une grande Marianne dessus, et qui va servir quelquefois comme succès d'année de l'orchestre. On va y donner des opéras. Boris Godounov va être donné en France avec l'orgue et pas l'orchestre, vous voyez. Et puis les grands oratorios de Handel, les Passions de Bach aussi, on les donnait souvent avec l'orgue seul. Donc on voit bien que l'orgue maintenant devient finalement le grand remplaçant de l'orchestre.
Et l'évolution de la technique qui fait que c'est de plus en plus facile aussi de jouer, parce que on a inventé les transmissions pneumatiques, ces choses-là. Quoi.
Parce qu'autrefois, évidemment, si on voulait avoir beaucoup de pression, c'est-à-dire un air puissant dans l'instrument, on était obligé d'appuyer très fort sur les touches. Donc, l'une des inventions géniales, c'est de permettre de jouer comme si on faisait finalement un solo de piano.
C'est un peu comme sur la voiture, il y a une sorte de système.
Oui, direction assistée. Exactement, c'est ça, tout à fait.
Oui, c'est drôle parce que je me suis amusé à regarder. À rechercher dans le 20 milieux sous les mers le passage qui parle de l'orgue du capitaine Nemo. Et dans le passage qui parle de l'orgue du capitaine Nemo, il parle de transmission pneumatique. C'est incroyable.
Oui. Et justement, vous m'évoquez un autre orgue, qui est l'orgue de Barbarie, beaucoup plus, plus modeste.
Oui, ça c'est...
C'est une concurrence
Oui, alors là on revient un petit peu au XVIIIe siècle, parce que c'est avec Mozart en fait, puisque Mozart s'est beaucoup intéressé aux instruments mécaniques, et justement les horloges automatiques, et il a écrit des pièces pour ces instruments-là. C'était un autre aspect de l'orgue. Nous quittons là le monde liturgique et sacré là.
Mais justement, est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de concurrence, parce que c'est étrange, moi je savais pas que Mozart avait composé la musique pour orgue.
Ah oui, mais en fait maintenant on la joue à l'orgue, cette musique-là, l'andante et puis la fantaisie. Oui. Mais en fait elle n'a pas été écrite pour être jouée. En fait non.
Mais Beethoven aussi, Haydn, ils ont tous écrit des pièces. Alors c'était un système qui a été aussi très utilisé en France, puisqu'on a un rouleau de Balbâtre, compositeur français, organiste de Notre-Dame, qui permettait de jouer un orgue automatique. Ouais. Et ce qui est pas très connu aujourd'hui, même si on a restauré deux de ces instruments, c'est que il y avait dans les églises aussi des sortes d'orgues de Barbarie dans lesquels on mettait des rouleaux et qui vous jouaient des paraphrases d'une messe. Alors très souvent, par exemple, on avait la messe royale de Dumont, et puis on alternait avec ces fameux orgues de Barbarie pour l'église, avec de la musique, des extraits d'opéra de Rossini, ouais. Des mélodies en fait qui n'avaient rien de religieux. Mmh. Mais les gens étaient contents de chanter la messe de Dumont, alternée avec des airs de Rossini, du Barbier de Séville,
etc. La playlist, quoi.
Voilà. Donc en fait, ça a quand même été c'est un petit peu l'équivalent d'un lecteur CD aujourd'hui.
C'est ça.
Hein, ou d'un lecteur MP3 qu'on mettrait à l'église. Mmh. En fait, voilà, c'était juste un orgue automatique. J'ai vécu dans mon enfance, et c'est le premier instrument que j'ai joué, dans l'église de Montignac-sur-Vézère, Montignac-Lascaux, on dit aujourd'hui. Et j'ai découvert de manière très étonnante qu'il y a eu un orgue à une époque qui était justement un orgue à rouleau.
Ah oui.
Voilà, et on connaissait le nom de la personne qui
tournait.
Qui tournait la manivelle.
Alors, on va entendre peut-être l'une des pièces les plus célèbres d'orgue, la toccata de la 5e symphonie de Charles-Marie Vidor. On va d'abord l'entendre et vous allez nous la commenter. Vous êtes à l'orgue de Saint-Antoine des Quinzevins. Alors là, ça, c'est du grand jeu, hein.
Oui.
C'est un peu sulpicien.
Oui, c'est sulpicien. Il a été l'organiste de Saint-Sulpice pendant plus de 60 ans. Après avoir signé un contrat pour un an, c'est pas mal. Charles-Marie Vidor, c'était un personnage très important, en fait, dans la vie musicale de cette époque. Il a composé des ballets, il a composé de la musique, il a eu un grand succès, au point que Proust lui-même en parle dans ses romans. Pas forcément bien, d'ailleurs. Mais enfin, Vidor a écrit des symphonies pour orgue. Ça, c'est très intéressant. C'est de la musique pour le concert. Alors, on joue ça à la sortie, maintenant,
des mariages. C'est vraiment symphonique, quoi.
Oui,
c'est votre boléro de Ravel.
Oui.
Mais on voit bien qu'il a essayé de. On entend les plans sonores quand même. On entend les cordes au-dessus qui.
Et puis ce grand choral.
Oui, c'est ça. Oui. Les instruments graves.
Oui. Non, c'est quelqu'un qui avait une vraie pensée symphonique et au lieu d'écrire des sonates. Guillemant, qui était un de ses contemporains, écrit des sonates pour orgue. Lui, il écrit des symphonies. Il veut montrer que l'orgue devient vraiment comme un orchestre bis.
C'est ça.
Voilà. Alors ça, c'est un exemple qui montre la grande puissance de l'instrument, l'instrument triomphant. Hein. Et puis alors, il faut pas oublier aussi que c'est l'époque de l'industrie. Hein. C'est-à-dire que d'abord, on reconstruit Paris sous l'impulsion du baron Haussmann. Donc, on écrase littéralement tout le Paris médiéval pour reconstruire à neuf. C'est un peu ce qui se passe avec l'orgue aussi. Ouais. Hein, à la fois l'industrie et puis cette écrasante obsession de reconstruire tout à neuf. Mmh. Et on construit aussi beaucoup d'églises à cette époque, toutes neuves.
Hein. C'est un peu l'église triomphante aussi. Hein,
l'église triomphante.
Cette époque-là. Bon,
il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs événements. Il y a eu d'abord l'effondrement de l'église suite à la Révolution. Mmh. Il a fallu reconstruire les choses. Et puis, on a une époque où on veut conquérir le cœur des fidèles. Voilà. Et puis, en même temps, donc, il y a aussi la défaite de 1870. Et donc, ces années-là, 70, 80, 90, c'est aussi l'époque où, petit à petit, en France, on veut aussi reprendre le discours en main, et notamment, on veut bannir la musique allemande. C'est pour ça que Vidor, il écrit sa fameuse symphonie. Il met en place un répertoire typiquement français. Hein, voilà. Et ça, c'est aussi à prendre en considération. On n'a pas tout à fait l'équivalent en Allemagne, où on poursuit une tradition plus liturgique, à cette époque-là.
Ouais. Dernier extrait, là, qui nous fait arriver dans le XXe siècle, c'est Jean Alain, les litanies. Alors, on va entendre, puis vous nous commenterez les litanies de Jean Alain.
Thank you.
pensez, François? Je vous sentais... c'est de la musique pas drôle, hein?
Ah non, c'est une musique avec, absolument géniale.
Non, géniale, mais un peu, un peu angoissée.
Vous,
vous trouvez
que c'est angoissant?
Un peu, non.
C'est peut-être le côté mineur, peut-être, je sais pas... Moi, je trouve que c'est très déclamatoire déjà, et ça, ça me plaît beaucoup, parce que là aussi, il y a un côté très vocal dans, ce, dans cette musique, et puis très, enfin, très profond aussi, parce qu'on entend les litanies aussi, hein, elles existent ces litanies avec la répétition qui est de ce thème incessante, hein, et puis. C'est vraiment une grande profondeur, c'est une musique très très profonde.
Ah, c'est magnifique, hein, je trouve ça magnifique. Ouais.
Alors, complètement d'accord.
Mais vous n'êtes pas angoissé?
Si, un peu.
Ah, quand même.
Oui, oui, si, si. Non, mais je veux dire, sur le, tout ce qu'a dit François, mais sauf que pour moi, c'est une œuvre inquiète. C'est-à-dire, il dit d'ailleurs une petite phrase au début de, des litanies, il dit que, en fait, lorsque le chrétien ne sait plus comment s'exprimer à Dieu, il répète la même invocation, et que la raison atteint sa limite et seule la foi poursuit son cheminement. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu angoissant dans cette litanie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de écoute-moi jusqu'au paroxysme. Et ça me touche beaucoup. Et par ailleurs, il y a une chose aussi, c'est que on est dans l'expression libre de la foi intime. On n'est plus dans le service liturgique. Et ça, Jean Alain a été un des initiateurs, avec Messiaen, il faut le dire.
Oui, c'est une pièce très, très libre. Ça,
c'est ça. Et donc, on n'est plus dans... dans... Alors, évidemment, j'aime jouer ça, par exemple, tout simplement, le jour de la Toussaint. Parce que ça évoque la litanie des saints, etc. Oui. Mais en réalité, c'est une musique complètement libre qui est écrite pour soi-même, comme une sorte de poème. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. L'irruption dans le domaine de la musique intime ou du concert, d'une musique chargée de sens spirituel. Et on n'est plus dans le domaine de la musique sacrée, c'est autre chose encore. C'est une musique chargée de sens spirituel. Toute la musique de Messiaen est inspirée par la spiritualité chrétienne. Mmh. Et la musique de Jean Alain aussi, combien même il va puiser, comme Messiaen d'ailleurs, dans d'autres sources extra-européennes. Mmh. On a aussi un compositeur alors, qui est décédé en 2004, qui est plus récent, c'est Jean-Louis Florenz, qui est allé puiser en Afrique.
Combien de fois vous nous l'avez fait entendre, François? C'est un de vos préférés.
Connu, donc.
Ouais. Et là, c'est tout à fait intéressant, parce qu'avec d'autres spiritualités que celle de l'Église catholique, catholique romaine,
bien sûr, bien sûr.
Lui, il va trouver quelque chose qui nous alimente et qui nous, alors, par exemple, le Requiem de la Vierge, Assoun, qui va vraiment puiser partout, en Éthiopie, etc. Et on est saisi. Moi, c'est une de mes œuvres préférées. Vous voyez, bon. Alors voilà. Donc Jean Alain, oui, évidemment, les litanies. Pour moi, c'est une des œuvres les plus géniales du XXe siècle. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Il faut l'écouter en entier. Hein. Mmh. Là, on arrive au point culminant.
On a fait quelques extraits.
Voilà, c'était
tout
juste pour
bien entier. Ah,
oui.
Merci à tous les deux. Alors, je pense que les téléspectateurs ont envie de vous entendre, de continuer à vous voir. Alors, pendant tout l'été, pendant les semaines qui viennent, vous avez certainement des concerts à nous proposer. François, qu'est-ce que vous proposez?
Alors, nous venons de faire le Messie de Handel, donc avec la maîtrise, et nous le redonnerons en décembre à Neuilly, ça c'est sûr. Et cet été, au mois de juillet, nous sommes en tournée en France, en Normandie, en Bretagne et en Anjou. Voilà, ça c'est les actualités immédiates.
Éric.
Alors, je viens de donner le dernier concert pour l'inauguration de l'orgue de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, un instrument qui vient d'être complètement reconstruit, très beau. Bientôt, je vais jouer pour l'inauguration de l'orgue d'Alfortville, Notre-Dame d'Alfortville, un orgue Cavaillé-École classé monument historique. Puis le lendemain, donc ça c'est le 28 juin à 20h30, et le lendemain à 16h à Bois-le-Roi, donc l'instrument va être complètement rénové, et donc je vais jouer aussi pour son inauguration. Pendant l'été, beaucoup de concerts dans plusieurs pays d'Europe. Et puis, à la rentrée, enfin, avec mon épouse Marie-Ange Laurent, nous allons clôturer notre enregistrement de l'intégrale de Bach sur l'orgue, les deux orgues de l'église Saint-Jacques de Lübeck. Alors, bon, c'est une entreprise très vaste, hein. Ça fait 20 CD au total, donc c'est assez colossal. On va illustrer avec tout ça une quinzaine d'instruments différents dans toute l'Europe. Et je dois dire, symboliquement, terminer à Saint-Jacques de Lübeck, là où Helmut Schwalcha, organiste allemand, en 1947, a enregistré la première intégrale de Bach. Je veux dire, moi, ça me fait chaud au cœur. Je trouve que ça, c'est un symbole très fort.
Ça va être publié dans quelle édition?
Alors, donc, l'intégrale va être disponible à partir du mois de novembre. Tours, oui. Chez Chanteloup Musique, et on peut déjà se procurer depuis le volume 1 jusqu'au dernier en disque séparé chez le même éditeur.
Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.